Merci David et toute son équipe pour ces beaux chants de louange. On a chanté « Je te donne tout ». Et c'est tout à fait justifié parce que Christ nous a tout donné. Alors comme le texte nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors je vous souhaite un très bon matin. Puis qu'importe la condition dans laquelle vous vous trouvez, joyeux, pépé, peut-être un peu attristé, mais que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je vous demande de prendre vos Bibles, si vous les avez avec vous, et trouver le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 13. C'est notre texte pour ce matin, les versets 1 à 14. Et comme vous pouvez constater, nous sommes arrivés à la fin. C'est le dernier chapitre du livre de Néhémie. Si je vous poserais une question ce matin, qu'est-ce qu'ils ont en commun ou bien comment est-ce qu'ils terminent en général, de façon générale, des contes de fées tels que Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, Cendrillon et j'en passe? Oui, vous avez la réponse. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureusement jusqu'à la fin de leur jour. Malheureusement, le livre de Néhémie ne termine pas comme cela. Pourquoi? Parce que Néhémie, ce n'est pas un conte de fées. C'est la vraie vie. Et c'est un livre qui adresse les problématiques de la vie, entre autres, celle qui nous démontre que malgré de belles promesses, de belles intentions et même des victoires, le peuple de Dieu, c'est la réalité, peut facilement glisser pour retourner aux vieilles habitudes pécheresses. C'est la réalité de la vie. Alors, pas besoin d'y tourner, mais si vous vous souvenez du chapitre 10 de ce même livre, le peuple est là, il contracte une alliance avec Dieu. Ils l'ont mis par écrit, ils l'ont signé, ils ont prêté serment, ils ont promis de ne pas se marier avec des païens, de respecter le sabbat, de ne pas abandonner la maison de Dieu et de soutenir l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que nous trouvons 3 chapitres plus tard? L'alliance est brisée, les promesses ne sont pas respectées, un peuple qui est rétrograde. Et bref, nous sommes dans un déclin spirituel. Et laissez-moi vous dire que Néhémie chapitre 13 n'est pas un cas isolé. Le livre de Juges, par exemple, est un exemple classique de ce type de comportement. Combien de fois nous lisons que les enfants d'Israël servirent l'Éternel pendant la vie d'un tel et un tel juge? Mais à sa mort, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Et qu'en est-il pour nous ce matin? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Vous savez, au cours de l'histoire, l'Église a connu de grands moments de gloire. Et je pense ici à la Réformation sous Martin Luther. Je pense aussi à des réveils sous des hommes de Dieu comme Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, des grands moments. Mais quelle tristesse de constater qu'aujourd'hui, parmi certaines églises, il y a des gens qui pratiquent un style de vie que Dieu déclare comme étant une abomination devant lui. Et ces gens-là occupent la place de leader spirituel du peuple. Tout un déclin. Mais qu'en est-il pour nous dans les assemblées des frères chrétiens? Qu'en est-il pour l'assemblée de Cap-Namadnen? Qu'en est-il pour vous et pour moi, les enfants de Dieu? Et j'aimerais vous dire que le déclin spirituel nous guette tous. Il n'y a aucune église à l'abri, aucun enfant de Dieu qui est à l'abri. Je vous donne l'incitation d'un nommé général William Booth. C'est lui qui a fondé l'armée du salut. Il a dit ceci. La nature d'un feu, c'est de s'éteindre. Pour éviter cela, il faut le brasser, l'alimenter et enlever les cendres. Et un autre nommé Zeisler a ajouté, le déclin spirituel est comparable à un flat. Et j'ai pris le bon mot québécois là, le flat, c'est une crevaison comme vous savez, mais on dit ici un flat. La plupart d'entre eux n'arrivent pas soudainement à cause d'un pneu qui a éclaté, mais plutôt à cause d'une fuite d'air qui passe inaperçue pendant quelques temps. Dieu merci pour Néhémie chapitre 13, qui nous donne des outils pour combattre le déclin spirituel, soit collectivement, ou aussi soit individuellement. Alors, on va lire notre texte pour ce matin, Néhémie chapitre 13, versets 1 à 14. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Et j'en ai éprouvé un vif déplaisir plutôt. Et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres. Et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'ai appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Zadok, le scribe, et à Pedaja, l'un des lévites. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Ce matin, nous avons le thème de ce texte, et d'ailleurs, c'est le thème de tout le chapitre 13. Combattre le déclin spirituel nécessite une vigilance constante et un leadership spirituel afin de purifier et restaurer nos pratiques aux normes bibliques. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous trois manières de combattre le déclin spirituel. Et je vous préviens, ce message va être un message de pépé. Pourquoi je vous dis cela? Parce que la première manière de combattre le déclin spirituel, c'est de mettre la parole en priorité. Ça, c'est pépé. Mettre la parole en priorité. Et si vous regardez votre texte au verset premier, vous allez voir que nous lisons ceci. On lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et si vous allez au verset 3b, vous allez voir ceci. On sépara d'Israël tous les étrangers. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ces étrangers faisaient là, au beau milieu du peuple de Dieu, un peuple saint? Et vous savez, quand Dieu avait libéré son peuple d'esclavage en Égypte, Dieu n'avait donné des commandements précis en ce qui concerne justement les autres nations, les païens. Il leur avait dit d'être séparés de ce peuple-là. Nous avons les textes comme nous avons dans Lévitique 18 au verset 2 et 3. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. » Dieu est très précis. Alors, il a dit aussi, « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous amène. » Alors, il y avait Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils disent, « Faites pas ce qu'on faisait là-bas, et je vous amène dans Canaan, mais faites pas non plus ce qui se fait dans le pays de Canaan. » Un autre texte nous dit ceci, dans Lévitique, chapitre 20, au verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et un dernier texte dans Josué, Dieu a dit, vous ne mêlez point avec ces nations. C'est-tu assez clair? Vous devrez être un peuple séparé, pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que moi, je suis un Dieu saint. Vous êtes mon peuple à moi, et un peuple saint, un Dieu saint, c'est aussi un peuple saint. J'aimerais juste être clair, ne me méprenez pas, et le texte n'est pas en train de nous dire pour nous aujourd'hui, là, on ne devrait pas tous aller vivre à l'écart sur une montagne, en quelque part, ou dans un trou, là, pour ne pas être en contact, ou se séparer justement des inconvertis qui nous entourent. C'est pas cela. Mais ces exhortations sont données à un peuple terrestre, un peuple qui est sous la loi. Et nous qui sommes à l'ère de la grâce, et nous sommes le peuple spirituel de Dieu, mais il y a le principe spirituel qui transcende les âges. Et c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, c'est ça le principe de la séparation. Alors, pour revenir à nos moutons, nous avons Israël en Néhémie chapitre 13, le déclin spirituel est évident. Malgré ce que la parole de Dieu avait enseigné, il y a des païens, des étrangers qui sont là, qui sont installés au beau milieu de ce peuple. Et ça nous démontre qu'ils n'avaient pas respecté justement la parole de Dieu. Alors comment est-ce qu'ils vont combattre ce déclin spirituel, ce glissement? Ou est-ce qu'ils ont remis la parole de Dieu à la place où est-ce qu'elle devrait occuper? Ils ont mis la priorité à la parole de Dieu. Et la première chose qu'ils ont fait, ils ont consulté la parole de Dieu. Si on veut donner la priorité à la parole de Dieu, mais c'est important de la lire, de savoir qu'est-ce qu'elle dit. Et ils ont consulté la parole de Dieu et ils ont lu dans le livre de Moïse, en présence du peuple du livre de Moïse, ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont consulté. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient en face d'une problématique. Ils se sont tournés en donnant importance à ce que Dieu disait. Il savait ce que Joblo disait. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il pensait de cela? Alors, ils sont allés consulter Dieu lui-même pour savoir qu'est-ce qu'il disait. Et bien sûr, Dieu leur avait dit justement de se séparer des nations. Une deuxième chose aussi, ils ont mis la parole de Dieu en priorité, justement en se laissant convaincre. Ils ont cru ce que la parole de Dieu a dit. Ils sont allés lire la parole, mais et quand ils ont compris ce que Dieu leur disait, ils ont cru Dieu à sa parole, au mot. Et le texte nous dit que lorsqu'ils ont entendu la loi, et c'est plus que juste un entendement, où est-ce qu'ils ont entendu avec leurs oreilles, ça a rentré en dedans, ça a touché le cœur, ils ont été convaincus par ce que Dieu disait. Et ça nous montre justement comment est-ce que pour eux, la parole de Dieu avait repris son importance. Et vous savez, ils auraient pu dire, écoute, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut dire? C'est-à-dire, l'ammonite et le moabite ne devraient pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Et vous savez que l'ammonite et le moabite, c'était des descendants de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Et ils auraient pu dire, écoute, pourquoi on est si sévère? Qu'est-ce qu'on veut dire jamais entrer? Vous ne trouvez pas qu'on exagère un peu? Mais non, pour eux, ils ont accepté ce que Dieu avait dit et les raisons aussi pour lesquelles Dieu avait dit cela. Et le texte nous dit, c'est parce que les Ammonites n'avaient pas donné l'hospitalité aux enfants d'Israël et les Moabites en sont allés encore plus loin et ont voulu maudire le peuple, un peuple que Dieu avait béni. Et, mais Israël, quand ils ont lu la parole de Dieu, ils n'ont pas argumenté, ils n'ont pas discuté. Comme quelqu'un a dit très bien en anglais, j'aime cela, vous donnerai la traduction française plus tard. God said it, I believe it, and that settles it. Dieu l'a dit, je le crois, et ça me suffit. Et qu'importe comment est-ce que ça peut paraître, cette déclaration de Dieu que l'Ammonite et la Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, pour eux, Dieu l'avait dit, et c'était le point final. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont laissé la parole influencer leur conduite, et vous savez, le texte nous dit, ils ont passé à l'action. Voilà comment est-ce qu'ils ont combattu justement le déclin spirituel. Ils ont mis la parole de Dieu à sa place qu'elle devrait avoir, la priorité. Ils ont stoppé l'hémorragie. Ils ont restauré la parole à sa place. Ils ont restauré justement leur pratique aux normes bibliques. Ils ont consulté, ils ont cru, ils ont obéi. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité fait? Mais la vérité, quand elle est crue, quand elle est acceptée, quand on obéit à la vérité, ça nous purifie. Jésus a dit, sanctifiez-les par ta parole, par la vérité, ta parole est la vérité. Alors quand nous avons la vérité et que nous le mettons en pratique, mais ça nous sanctifie. Et ça, c'est une manière de combattre le déclin spirituel. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'elle va nous sanctifier justement pour nous purifier pour combattre le déclin spirituel. Et vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une ère où est-ce que c'est très, très populaire quand on parle de la parole de Dieu, de dire devant un texte de la parole de Dieu, désolé, ça, ce que ce texte dit, là, c'est ce que ce texte dit pour toi. Mais pour moi, ça veut dire tout autre chose. On entend souvent cela. Pour toi, là, c'est ce que le texte dit, mais pour moi, ça me dit d'autres choses. Et j'aime bien le commentaire de John MacArthur, parce qu'il a dit ceci, écoute, posez-vous la question, qu'est-ce que ce texte disait là, quand vous n'étiez même pas au monde? Et qu'est-ce que ce texte va dire 100 ans d'ici quand vous ne serez plus là? Vous savez, ça c'est la seule manière d'éviter le déclin spirituel. Un texte peut avoir plusieurs applications, mais une seule interprétation. Et si on accepte ce type d'argumentation, vous savez où cela nous amène? Directement dans le livre des juges. Où est-ce que le déclin spirituel est à son comble? Et qu'est-ce que nous lisons à la fin du livre? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Déclin spirituel. Mais Dieu merci. Dieu merci ce matin. Nous n'avons pas besoin de tâtonner comme des aveugles. Nous avons la parole infaillible de Dieu. Et Dieu dans sa bonté nous a laissé sa parole. Et de plus, Dieu, dans sa bonté, nous a donné de son esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ est catégorique là-dessus, il est très clair. Il dit, je vous envoie l'esprit, le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, qu'est-ce qui manque? Nous avons la parole de Dieu qui est infaillible. Nous avons l'Esprit du Saint qui s'engage à nous conduire dans la vérité. La seule chose qui manque, c'est un cœur ouvert et un cœur docile. Et si vous mettez ces trois choses ensemble, vous allez remporter, nous allons remporter collectivement et individuellement, nous avons remporté la victoire sur le déclin spirituel. Deuxièmement, combat le déclin spirituel. Encore un message pépé. Mettre la parole en priorité, mais purifier la prêtrise. Purifier la prêtrise. Et dans les versets 4 à 9, nous sommes devant une deuxième problématique. Là, nous avons un nommé Tobija, qui est installé confortablement dans le temple. Et comment est-ce qu'il est arrivé là? Mais il y a un nommé Eliashib, le souverain sacrificateur, le gourou, le top gun, le leader spirituel, c'est lui qui l'a installé là. Et le texte nous dit que le sacrificateur Eliashib, parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, le dîme, etc. Et si vous regardez au verset 7b, Néhémie va dire ceci: « Je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de Dieu. » Mais trouvez une erreur. Qu'est-ce que Tobija fait dans une chambre, dans le temple de Dieu? Et pourquoi est-ce que Néhémie va dire que c'est mal? Mais qui est ce Tobija? Mais si on recule rapidement, je vous donne un portrait de cet homme. Un homme qui a eu un grand déplaisir de ceux qui venaient un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ça, c'est au début, Tobija. Quand Dieu a suscité Néhémie pour aller reconstruire Jérusalem, lui, il n'était pas content. Deuxièmement aussi, il s'est moqué et méprisé les Juifs. Tobija aussi, c'était lui qui s'est moqué de la reconstruction en disant, c'est lui qui a dit, si un renard s'élance de votre muraille, là, est comme un château de cartes, c'est tellement faible, si un renard s'élance, mais il va renverser votre muraille. C'est ça, c'est Tobija qui avait dit ça. Et c'était lui qui est très, très irrité en apprenant que la réparation des murs avançait. Alors, vous savez, c'est qui Tobija? C'est ennemi public numéro un des Juifs. Et le voilà, à Jérusalem, et même pas seulement à Jérusalem, dans le temple, imaginez. Ce centre névralgique de Jérusalem, il est là. Vivant dans le luxe, dans une grande chambre, tout gratis, et la chambre où autrefois on mettait des choses de Dieu. Et comment ce qui est arrivé là? Mais comme je dis, c'est le souverain sacrificateur Eliashib qui l'a mis là. Et j'ai sorti trois choses justement, ce geste-là, à propos de ce geste qu'Eliashib a posé. Il abuse de sa position. Il est souverain sacrificateur. Cet homme, Tobija, il y a un lien de parenté. Et justement, il va utiliser son autorité pour l'installer dans le temple de Dieu, sachant sans doute qu'il n'y a personne qui va oser le confronter. Et en plus, il profite de l'absence de Néhémie pour le faire. Néhémie a dit, je n'étais pas là. C'est un homme sans scrupules. Ça ne lui dérange absolument pas de prendre les choses de Dieu, de les mettre soit dans ou ailleurs, et de prendre la chambre qui était réservée pour les choses de Dieu et mettre justement son parent Tobija là. Et aussi, c'est un homme qui va être une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que les communs des mortels, là, ils voient Eliashib qui fait ça. Et si la temple de Dieu, la maison de Dieu n'est pas respectée, et si les choses de Dieu ont été écartées et quelqu'un est installé, si Eliashib a fait ça, pourquoi nous autres, on ne devrait pas faire pareil? Alors, on voit comment est-ce que cet homme, Eliashib, qui est le souverain sacrificateur, qui devrait justement combattre le déclin spirituel, il fait partie justement de la problématique et non pas de la solution. Mais merci pour les hommes du calibre de Néhémie. Tout un homme de Dieu. Un homme qui a utilisé du discernement. Il n'est pas impressionné. Il n'est pas aveuglé par Eliashib et sa position. Il regarde, il discerne que ce que Eliashib avait fait, c'est du mal. Puis il l'appelle comme cela. Il dit, je vois le péché qu'il a fait en faisant cela. C'est un homme aussi qui va agir correctement. Il va piquer là une colère sainte. Il n'y a rien de mal avec ça. De ne pas avoir réagi, ça aurait été mal. Un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il entre dans le temple à Jérusalem, il voit la maison de Dieu qui est transformée en caverne de voleurs. Comment il ne peut pas réagir à cela? Il a réagi le Seigneur Jésus-Christ. Et Néhémie, il fait la même chose. Il voit justement le péché qui est là. Et il réagit, mais avec une colère qui est sainte. Il va, et vous allez voir, c'est un homme qui est courageux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Let's go. Pas de demi-mesure. On ne négocie pas. On a pollué la maison de Dieu. Tout doit partir et vite. Et il dit aussi, j'ordonnais qu'on purifie les chambres. Je ne sais pas s'il y avait une odeur de Tobija qui était dans les airs. Il dit, on ne prend pas de chance. Là. Mets du push-push. Ça va sentir bon. Oh, Tobija, ça pue. On va enlever ça de là, on va purifier la chambre. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va replacer des ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Ça, c'est un ennemi qui applique des mesures correctives appropriées à des choses de Dieu à leur juste place, et je l'appelle le grand réformateur. Juste faire une petite application rapidement. Parce que nous avons une parallèle ici frappant avec la vie chrétienne. 1 Corinthiens 6, 19 nous enseigne que nos corps, ce sont les temples du Saint-Esprit. Et tout comme le temple physique du temps de Néhémie, nos corps peuvent être pollués par les choses de ce monde. Et c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant en ce qui concerne des choses que nous regardons. C'est une façon de nous polluer. Là. Les choses que nous regardons, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, que ce soit sur l'Internet, il y a beaucoup de choses là qui peuvent nous polluer. Et encore, les Anglais, ils disent très bien, garbage in, garbage out. Si vous laissez entrer des ordures, mais ce sont les ordures qui vont sortir. Et comme vous savez, les ordures, là, ça ne sent pas bon. Alors, quelle motivation pour vous et pour moi de garder nos temples, nos camps, le temple du Saint-Esprit pur? Et même s'il faut être drastique, Néhémie a été extrêmement drastique, il a pris toutes les choses de Tobija et dit « dehors ». Et le Seigneur aussi nous a dit, s'il y a quelque chose dans notre vie qui pour nous est une occasion de chute, et par exemple ton œil, arrache-le, pas de façon littérale. Mais enlevez dans votre vie, dans ma vie, des choses qui nous font trébucher. Jetez dehors les objets de Tobija et remplacez-les par les choses de Dieu. Et comme il a dit à l'église à Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. Et vous savez que ce serait tout un sujet de gloire. Imaginez si nos vies étaient des vies pures. Quand Néhémie a nettoyé cette chambre, il a remis des choses de Dieu là-dedans, et parmi ces choses, il se trouve quoi? L'encens. Et vous savez, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il montait toujours vers le Père comme une odeur agréable. Pourquoi? Parce qu'il était saint, juste, innocent, sans tache. Et chaque fois que nous nous purifions et nous prenons le temps justement de nous consacrer à Dieu, mais nos vies aussi montent vers le Seigneur comme une offrande de bonne odeur. Et les choses de Dieu, du monde, ils prennent la juste place. Et troisièmement, je dois accélérer. Troisième chose ici pour combattre le déclin spirituel. Mettre la parole en priorité, purifier la prêtrise, mais présenter les portions. J'ai gardé le pépé parce que c'est un message pépé. Présenter les portions. Et si vous regardez le texte encore, j'ai appris que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Israël avait cessé de donner, de contribuer, de soutenir l'œuvre de Dieu par leurs dons. Et ça, c'est pas surprenant. Parce que quelqu'un a dit que quand le déclin spirituel s'installe, ça finit tôt ou tard par affecter notre portefeuille. Et là, vous avez un cas de cela. Et le texte nous dit dans Matthieu 6, 21, là où est notre trésor, là aussi est quoi? Notre cœur. Et ne pas donner, il y a une implication de cela, il y a aussi des conséquences. Quand on ne donne pas, c'est parce que on a une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Et dans ce contexte-là, pour nous, quand on ne se donne pas à l'œuvre de Dieu, c'est comme si nous sommes en train de dire que le royaume de Dieu, là, ça peut prendre la deuxième, troisième, quatrième, et même la centième place. Mais la parole de Dieu nous enseigne que de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si c'est notre but, si on comprend correctement l'importance du royaume de Dieu, le royaume éternel, le royaume qui va durer, le royaume où est-ce que Dieu va être glorifié, si c'est notre conviction, je vous garantis qu'on va trouver une manière de donner. Pourquoi? Parce que nous soutenons des choses que nous mettons en priorité. Deuxième chose aussi, ça va avoir un impact direct sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Néhémie va poser la question, là, pourquoi est-ce que la maison de Dieu est abandonnée? Les Lévites ne sont plus là, les chants ne sont plus là. Alors, ne pas donner aussi a un impact sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le grand réformateur, il va chercher les gens, il va les ramener. Et voilà, c'est beau de voir qu'une fois que les choses sont rétablies, mais Israël va soutenir l'œuvre. Tout Israël apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et pourquoi le texte spécifie tout Israël? Parce que soutenir l'œuvre de Dieu dépend de la contribution fidèle de tous. Il y a un texte dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Et juste encore ce matin, je vous pose la question, êtes-vous en train de faire votre part? Et c'est beau aussi à voir que Néhémie, c'est un homme sage. Il sait ce qui s'est passé, mais il ne veut pas que cela se répète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va organiser, on peut l'appeler un conseil d'administration. Il va chercher des gens là, fidèles. Il va dire, vous allez maintenant vous occuper justement de voir à ce que les choses rentrent, et vous allez aussi faire des distributions à vos frères, et il fait la surveillance et ainsi de suite. Et l'avancement de l'œuvre de Dieu dépend aussi d'une administration fidèle de la part des hommes fidèles. Et Dieu merci ce matin que nous avons une équipe de diacres, une équipe de tonnerre, des hommes fidèles qui administrent justement, et comme nous prions quand nous faisons la collecte, que Dieu donne la sagesse à ces hommes. Et merci Seigneur pour ces hommes qui sont là, qui administrent fidèles justement les biens du peuple et les biens du Seigneur. Alors voilà comment combattre le déclin spirituel. Israël a mis la parole en priorité, ils ont purifié la prêtrise et ils ont présenté les portions. Et Dieu voulant, au mois de septembre, nous allons voir deux autres problématiques et deux autres réformes. Je ne volerai pas le punch de Stéphane et Adama, mais vous pouvez lire les deux textes parce que c'est récurrent dans le chapitre 13, le déclin spirituel, et comment Néhémie aussi va apporter justement des réformes pour cela. Alors je termine avec juste simplement ceci. Néhémie, des trois sections de Néhémie, il y a une prière après chaque section. Et dans cette prière-là, Néhémie va dire ceci, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété. » Et je peux vous dire que c'est une prière que Dieu a exaucée. Vous savez, ça m'a frappé quand j'ai lu cela, parce que le malfaiteur sur la croix, il a fait une prière semblable. Il s'est tourné vers Jésus, il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et vous savez, cet homme aussi a été exaucé. Le Seigneur a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce matin, vous aussi, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous pouvez aussi invoquer le Seigneur, mais avec une petite exception, pas à cause de votre piété. Vous pouvez invoquer Jésus-Christ à cause de sa piété à lui. La Bible nous dit que Christ est mort pour les péchés, lui juste pour les injustes. Et à cause de la piété du Seigneur Jésus-Christ, à cause de sa mort sur la croix qui a payé la dette de nos péchés, tout pécheur peut invoquer Dieu et lui dire « Souviens-toi de moi à cause de la piété de Jésus-Christ sur la croix. » Et si ce matin vous faites cela, si vous vous repentez de vos péchés, c'est une prière que Dieu exaucera. Parce que Jésus a tout payé. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de le faire afin qu'il ne soit trop tard. Et là, vous pouvez être comme Néhémie, comme Israël. Commencez justement une vie de sanctification, où vous pouvez glorifier Dieu. Et votre vie peut être comme une offrande, une bonne odeur, et votre vie peut glorifier Dieu. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta personne, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre et nous te prions de nous parler ce matin, moi le premier, que ce texte que nous avons vu puisse maintenant pénétrer dans nos cœurs comme ce fut le cas d'Israël et que nous puissions, Seigneur, mettre en règle les choses qui sont dans nos vies qui te déplaisent. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être des enfants de Dieu obéissants et docile. Et s'il y a parmi nous quelques-uns qui ne te connaissent pas, notre prière toujours, Seigneur, tu es un Dieu qui est miséricordieux, tu es un Dieu qui est compatissant. Nous nous demandons de te révéler à ces personnes et donne-leur, Seigneur, cette grâce de justement détourner le regard d'eux-mêmes et de leurs péchés et de fixer le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. Ta parole nous dit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et Seigneur, nous te croyons parce que ta parole est la vérité. C'est par nous avec ta bénédiction, nous demandons au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.